soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Bienvenue à tous dans À votre avis, votre programme interactif depuis Washington DC sur VOA Afrique. Eric Manilakiza avec vous. Michel Joseph, Claire Joseph assure la mise en onde. L'insécurité alimentaire au Sahel, en Afrique de l'Ouest et centrale, affecte plusieurs millions de personnes en situation de crise. Selon le réseau de prévention des crises alimentaires, réuni jeudi en visioconférence, plus de 27 millions de personnes risquent d'avoir besoin d'assistance immédiate durant la période de soudure entre juin et août, soit plus de 9% de la population des 14 pays concernés. Le Nigeria pourrait compter près de 13 millions de personnes en crise alimentaire cet été. En RDC, 27 millions de personnes, soit un tiers de la population, souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, selon la FAO et le PAM. Nous en parlons tout de suite en ligne. Baudelaire Achou, bonsoir. Baudelaire, vous nous entendez?
Oui, bonsoir.
Baudelaire, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui, je vous écoute, Baudelaire.
Ok. Je pense quand même que, comme je l'ai dit, c'est un problème vraiment crucial et très profond et qui a pris beaucoup plus sa source dans, je parlais beaucoup plus de l'ignorance des différentes autorités des pays du Sahel. Parce que je ne suis pas des pays du Sahel, je suis au Bénin et notre pays aussi est concerné. Et quand vous venez aujourd'hui, les produits vivriers coûtent vraiment cher et la population a vraiment du mal à se nourrir, à se procurer de 3 repas par jour. Et vous allez voir que quand ça se passe de cette manière, c'est une situation, un problème que la population a vraiment du mal à gérer et ça conduit quand même à beaucoup de problèmes. Et quand on a une situation comme ça, il faudrait nécessairement penser quand même à trouver des solutions pour pouvoir vraiment la régler. Et moi, je pense que la solution à ce niveau, il faudrait que les chefs d'État prennent vraiment conscience. Parce que quand je prends par exemple mon pays, le Bénin, nous avons 4 saisons qui s'atteignent, 2 grandes saisons pluvieuses, 2 grandes saisons sèches. Et c'est déjà quand même une opportunité quand même que les autorités peuvent saisir pour trouver des solutions et voir vraiment dans quelle mesure prévoir. Et comment dans cette crise-là, les alternatives à maintenir pour que ça puisse marcher. Mais ce qui est vraiment déplorable qu'on constate, c'est que les autorités ne se soucient même pas de ça. C'est beaucoup plus la politique qui les préoccupe. Le peuple peut mourir de faim, ça ne fait pas beaucoup plus le problème. Donc, c'est vraiment profond ce problème-là. Et je pense que la solution n'est pas très loin. Il suffira seulement que chaque État essaie de réfléchir très bien. Et la solution, on peut banalement trouver cette solution. Sans beaucoup plus de l'argent en investissant, beaucoup plus au niveau des produits vivriers, au lieu de penser aux produits de rente. Parce qu'en plus, le Bénin, nous produisons du coton, on produit de l'acadou, mais ça ne suffit pas pour qu'on nourrit le peuple. Il y a le maïs, il y a le riz là qu'on peut produire, ainsi de suite. Il y a d'autres produits qu'on peut produire aussi, qu'on peut aussi développer. Mais seulement que les gens, nos autorités mettent au premier plan les produits d'exportation et ça, parce que c'est en ça là quand même qu'ils trouvent vraiment du délire. Et les produits vieux quand même sont cassés au dernier rang. Et c'est ça ce qui fait notre grand mal en Afrique, beaucoup plus en Afrique subsaharienne. Merci.
Merci beaucoup, Baudelaire, pour votre grande contribution. Nous avons Marie-Paul Awa en ligne qui se trouve en RDC. Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs.
Je vous écoute. Votre pays est très frappé par l'insécurité alimentaire, un tiers de la population, selon l'alerte du PAM et de la FAO.
Oui, justement, ces journalistes, cette situation constitue un paradoxe pour notre pays parce que si vous faites des études agronomiques, notre pays, c'est un pays à vocation agricole. Et c'est vrai que lorsqu'on évalue les indices de développement humain, il se fait que dans ces indices-là, les taux de malnutrition est très élevé. Pourquoi ces taux est très élevé? Ces journalistes, lorsque vous analysez la manière dont l'économie est organisée dans notre pays, c'est une façon, l'économie est organisée d'une façon un peu désintéressée, de façon un peu désordonnée. Et les terres arables, c'est-à-dire la politique agricole n'est pas au rendez-vous. Et le pays vit par des forces, le pays dépend des forces extérieures. Nous avons des économies d'extraversion. Et ces économies-là ne permettent pas justement qu'il y ait tout citoyen puisse avoir une alimentation disponible. Et c'est ce qui fait maintenant qu'il y a un taux très élevé de malnutrition dans le pays. Et aussi, de l'autre côté, bien qu'il y a des sonnettes d'alarme que ces organisations, notamment PAM, même le PNUD publient justement pour demander à notre pays d'organiser la situation, les autorités font fi parce qu'il n'y a aucun progrès agricole. Il n'y a aucune philosophie plausible pour que l'économie soit relâchée, afin que les gens trouvent de quoi manger. Et les gens n'ont pas à manger. Vous savez, déjà, lorsqu'il y a manque à manger, le développement est déjà un problème. Le développement devient problématique parce que les gens qui manquent ne serait-ce qu'à manger, ils ne vont pas trouver des moyens de réfléchir, ils ne vont pas trouver des capacités justement pour développer d'autres secteur. C'est les combles que nous avons ici. Une situation, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, une situation qui est vraiment paradoxe. Parce que les terres arables que nous avons ici, la RDC est un pays qui est en vocation agricole, ne devrait pas assister à ce genre de cartographie de malnutris, des gens qui sont malnutris, qui dépassent. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas, comme je viens de le dire, il n'y a pas une politique agricole, il n'y a pas une politique de production des moyens et services pour permettre qu'à chaque population puisse trouver de quoi manger. Il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a même des adultes qui font la belle étoile, qui manquent à manger, qui demandent, qui commencent à se chosifier un peu. Ce qui est horrible dans un pays, et pour la RDC, qui a un qualificatif des scandales géologiques, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de minerais, mais dans ces pays-là où les gens sont assis sur les minerais, on arrive à ce genre de situation. Je pense que c'est une interpellation très sérieuse de la part des gouvernants pour que ce gouvernement puisse peut-être mettre en place une politique agricole, une politique d'alimentation, afin que la population ne trouve ne serait-ce qu'à manger. Parce que si le manger pose problème, nous ne pouvons pas. Nous sommes vraiment désespérés des développements. Est-ce que ça fait le manger fait partie quand même des ABC parmi les besoins et les matières primaires. Et si déjà les gens souffrent, n'ont pas à manger, c'est très grave. Et il y a, en dehors de manger, si nous prenons, il y a aussi une carence d'eau. Les gens ont une carence d'eau, alors que les fleuves, il y en a, il n'y a pas de moyens pour transformer ça. C'est compliqué un peu. Voilà quelques mots, ce qui signifie un peu cette publication. Et je pense que c'est une publication qui est logique par rapport aux réalités du terrain.
Merci beaucoup, Marie-Paul Awa, pour votre contribution. Nous allons maintenant au Burkina Faso pour retrouver Moussa Florentin Naba. Moussa Naba, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Votre pays pourrait en avoir près de 3 millions de personnes en insécurité alimentaire.
En tout cas, avec le temps qu'il connaît, en tout cas, vraiment, c'est un peu compliqué parce que avec le Sahel comme le lait, ça fait que il y a l'insécurité de l'alimentation pour le moment. Mais je pense que c'est la faute au gouvernement parce que le gouvernement met un maximum de moyens dans l'agriculture, parce qu'on ne peut pas, dans un pays, on ne peut pas développer sans l'agriculture. Donc, autant le gouvernement de Sénégal n'est pas en place ce côté. Donc, je pense que c'est le gouvernement de faire son mieux, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont là et ne travaillent pas. Donc, tout ça, là, c'est un problème.
Merci à Moussa Florentin Naba pour votre contribution. Nous allons maintenant au Mali pour retrouver Falingué Touré. Touré, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir à toute l'équipe Viva Afrique.
Le réseau de prévention des crises alimentaires pour le Sahel dit que le Mali pourrait en avoir près de 1,5 million de personnes en insécurité alimentaire. Touré.
Là, il n'y a même pas de contradiction à ces faits. Quand nous constatons avec les différents événements qui sont arrivés au Mali durant les deux dernières années, et durant les 10 dernières années plutôt, en allant vers 2011 à nos jours, on voit que l'insécurité a détérioré la sécurité alimentaire dans toutes les parties du Sahel, notamment du Mali. Et ensuite, quand on regarde aujourd'hui au centre du Mali, le conflit communautaire aussi a entraîné l'insécurité alimentaire. Donc le Mali, quand on parle d'un million et plus cher, donc on peut même dire qu'il y a plus de 2 millions qui vont avoir des problèmes alimentaires dans les prochaines années.
Est-ce qu'il y a-t-il des mesures qui sont envisagées par votre gouvernement pour limiter les dégâts?
Bon, pour limiter les dégâts, le gouvernement, bon, au niveau des programmes agricoles de l'État, je ne sais pas comment faire avancer cette idée. Mais en réalité, quand on regarde les nouvelles autorités de la transition, depuis qu'ils ont venu, ils ne se sont pas fait face à cette situation pour pouvoir assurer la population au niveau des programmes alimentaires. Donc, quand on regarde l'Office du Niger même, c'est là-bas que l'agglomération même doit être améliorée à chaque année. Ça lui donner le courage aux indigènes d'aller cultiver les terres arables et d'amener des machines de production et diminuer les prix des engrais pour que les ruraux puissent faire des quantités de production pour que l'abondance de riz soit à la portée de toute la population du Mali. Mais cela ne se fait pas parce que les autorités maliennes ne se soucient pas à la population. Voilà ce qui se passe dans notre pays.
Merci beaucoup à Falingué Touré pour votre contribution. Nous retrouvons plutôt Litter Martin. Litter, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Qu'est-ce qui se passe chez vous? On parlait de la sécurité alimentaire ou de l'insécurité alimentaire.
Oui, l'insécurité alimentaire, là, vraiment risque d'affecter dans tous les continents d'Afrique. Parce que nous avons des problèmes de l'agriculture et de l'élevage ici, surtout chez nous aussi au Congo.
C'est le Congo-Brazzaville, c'est ça?
Oui. Et aussi, c'est honte pour la France. L'Afrique a son propre richesse.
Martin?
Oui, monsieur.
Quels sont les problèmes qui s'opposent sur le terrain chez vous? Pourquoi il n'y a pas assez à manger pour tout le monde?
Nous, vraiment, ici, les problèmes de la terre aussi, vraiment, ça ne marche pas.
C'est-à-dire?
Allô?
Martin?
Oui, je t'écoute, monsieur.
Oui, on a vu qu'il y a des entreprises de transformation chez vous. Je ne me rappelle plus exactement dans quelle région. Est-ce que ça ne suffit pas pour nourrir tout le Congo?
Oui. Ici, les gens, souvent, ils consomment seulement les produits congelés.
Merci Martin pour votre contribution. Je signale que vous êtes au Congo Brazzaville. Je vous disais tantôt que l'insécurité alimentaire au Sahel, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale affecte plusieurs millions de personnes. Le Nigeria pourrait compter près de 13 millions de personnes en crise alimentaire ou pire cet été. Le Burkina Faso pourrait en avoir près de 3 millions. Le Niger, plus de 2 millions. Le Tchad, comme la Sierra Leone, près de 2 millions. Le Mali, près d'1,5 million. Et le Libéria, près d'1 million. Les principaux foyers d'insécurité alimentaire aiguë se situent dans des zones de conflit et de violence, soulignent les experts du réseau de prévention des crises alimentaires pour le Sahel. Le nord-est du Nigeria continue à faire face à l'insurrection islamiste de Boko Haram. La région à cheval entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est-à-dire les trois frontières, subit elle aussi depuis des années des attaques djihadistes perpétrées contre les populations civiles. Le nombre de personnes déplacées dans les pays analysés est estimé à plus de 5,5 millions, dont 3 millions au Nigeria et 1 million au Burkina Faso. Il y a aussi la pandémie de Covid-19 qui perturbe les échanges entre pays avec la fermeture de frontières terrestres. Tous ces facteurs cumulés ont dégradé la situation alimentaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel, alors que la production agricole a été globalement bonne pour la campagne 2020-2021. Nous avons Félix en ligne. Félix, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Je vous écoute.
Bon. Oui, concernant le sujet, bon, vraiment, c'est déplorable. Et puis, c'est vraiment écœurant que l'Afrique subsaharienne souffre encore d'insécurité alimentaire et de famine. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas trop plaindre la population, parce que il y a le changement climatique qui a nettement défavorisé la production, mais aussi je dirais qu'il y a un manque de volonté un peu politique, je dirais, parce que nous, en Côte d'Ivoire, nous avons une végétation qui s'y prête à la production agricole et de la agriculture surtout, mais vraiment, tous nos bas-fonds ne sont pas exploités. Nos dirigeants préfèrent mettre des milliards et des milliards à importer du riz de l'Asie, alors qu'on pouvait injecter cet argent-là, ce montant colossal, dans la production locale. Donc, chez nous, ici, l'insécurité alimentaire, je dirais que c'est un peu voulu par nos différents dirigeants. Sinon, la Côte d'Ivoire, elle, ne devait pas souffrir d'insécurité et on ne devait pas aussi importer, puisque déjà même la population locale, plutôt paysanne, produit elle-même pour sa nourriture, et c'est le surplus qu'elle vend. Mais qu'est-ce qu'un paysan peut faire, une production de 5 000 tonnes, de 10 000 tonnes, si l'agriculture n'est pas modernisée? Est-ce que vous voyez? Donc c'est avec ses propres efforts qu'il produit, et c'est le surplus qu'il vend. Or, si c'était une politique gouvernementale, une instauration, donc ça allait pouvoir pallier à tous ces problèmes-là. Et puis, pourquoi pas distribuer un peu dans la sous-région notre production d'igname, de manioc, de riz, de maïs, d'haricots, de soja, toutes ces choses-là. On pouvait juste combler le déficit au niveau du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Mais dans chacun des différents États, il y a un manque de volonté politique qui aggrave la situation.
Avant de vous laisser partir, Félix, mais quel est le rôle des communautés, la responsabilité? Est-ce que vous attendez toujours que l'État vienne faire du travail à votre place?
Bon, en fait, c'est ce que j'ai expliqué. Bon, vous êtes aux États-Unis. Donc là-bas, bon, vous convenez avec moi que l'État subventionne l'agriculture. Ici, chez moi, en Côte d'Ivoire, l'État ne subventionne pas. Ce sont les paysans eux-mêmes qui produisent avec leur propre force et de manière rudimentaire, avec des machettes et des dabas. Au niveau du cacao, l'État ne subventionne pas, mais l'État fixe le prix des paysans. En fait, un peu comme si l'État exploitait les paysans. Est-ce que vous voyez? Donc si, en Côte d'Ivoire ici, lorsque un paysan il produit peut-être un demi-hectare de riz avec des forces rudimentaires, s'il avait les équipements modernes, toute la machinerie qui accompagne la production de riz n'est pas un demi-hectare qui va produire. Maintenant, ça sera peut-être 1000 hectares. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, c'est vrai que les communautés locales font leur effort à eux pour produire. Parce que c'est ce qu'ils produisent qu'ils vendent et c'est ce qui lui donne de l'argent pour faire survivre sa famille. Mais... Maintenant,
oui.
En plus de ça, si les moyens lui étaient donnés, c'est pas cette petite situation laquelle il avait exploité. Il avait plus que ça. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est ce qui manque ici chez nous. C'est ce qui manque. Et c'est le mal de l'Afrique de l'Ouest.
Mais...
Donc, nous avons besoin de subventions de nos différents États pour pouvoir moderniser l'agriculture et faire de la production de masse. Tant qu'on n'arrive pas à produire nous-mêmes pour nous autosuffire, vraiment, ça sera déplorable. Et ce sont les avions des Nations Unies qui vont continuer à larguer des sacs de farine, des sacs de riz sur les populations affamées. Donc, ces images-là font vraiment pitié. Est-ce que vous voyez, nous avons de la terre riche qui n'est pas exploitée. Est-ce que vous voyez un peu le tableau que j'ai peint? C'est un tableau pathétique, ça fait pitié. Nous avons toute la terre, la pluviométrie, mais on ne produit pas. À quel niveau se situe le problème? C'est la question qu'on doit se poser. Chacun à son niveau a un effort à faire, chacun à son niveau a une action à poser. Venant des gouvernants, l'action à poser est énorme. Parce que c'est eux qui détiennent toutes les mannes financières de nos États, de nos pays. Est-ce que vous voyez?
Merci, donc, Félix.
D'aller les garder dans les paradis fiscaux, s'ils injectaient dans nos économies, ça allait nous aider.
Merci Félix pour votre contribution. Évidemment, le rôle des communautés est primordial. Nous avons Charles Bougma qui se trouve au Burkina Faso. Charles, bonsoir. Charles, vous êtes là? Nous avons un problème de communication avec Charles Bougma. Je disais donc qu'il y a un problème d'insécurité alimentaire sur le continent africain. Les quatre régions ou pays qui risquent de sombrer dans une situation de famine sont le Burkina Faso, situé dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest, le nord-est du Nigeria et le Soudan du Sud, selon des organismes onusiens. Et là, je parle de la FAO et le PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Selon ces organisations, une partie des personnes vivant dans ces foyers font face à une situation de faim critique. En cause, l'escalade des conflits et les difficultés accrues concernant l'accès de l'aide humanitaire. C'est ainsi que, sur le continent, l'Éthiopie, la Somalie, le Cameroun, la Centrafrique, le Mali, le Niger, la Sierra Leone, la République démocratique du Congo, donc la RDC, le Mozambique, le Zimbabwe et le Soudan sont considérés comme des pays à risque. Pour ralentir, voire arrêter cette dynamique, la FAO et le PAM espèrent que la mise au jour de cette réalité devrait aider à entreprendre une action immédiate pour éviter une crise majeure ou une série de crises d'ici 3 à 6 mois. Parmi les facteurs identifiés pour faire évoluer favorablement la situation, il y a la nécessaire amélioration des conditions d'accès à l'aide humanitaire et la poursuite du financement des interventions humanitaires. Alors, pour sentir ce besoin de donner l'alerte, la FAO et le PAM pointent dans un rapport publié à la fin de la première semaine une conjonction de facteurs qui font basculer les populations plus profondément dans la phase d'urgence et de l'insécurité alimentaire. Il s'agit des conflits, du déclin économique, de la situation climatique extrême et de la pandémie du Covid-19 qui a fortement impacté les structures économiques et sociales. Le dit rapport souligne que la carte du monde montrait que les taux d'insécurité alimentaire aigus atteignent de nouveau sommet à l'échelle mondiale. Il y a un pays comme la Sierra Leone, pays côtier. Ce sont les problèmes économiques qui engendrent l'insécurité alimentaire. Merci à vous tous qui avez appelé pour vous exprimer à votre avis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Michel Joseph pour la mise en onde. Merci à notre ingénieur du son, Odrius Rigus, Eric Maniakis a été avec vous à la présentation. Excellent week-end à vous tous. Au revoir.